Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La vie d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille, problèmes d'ego, questions de sens, difficultés à manager, difficile gestion de l'autorité aussi. Pour vous aider, nous avons décidé de faire appel à des coachs, sorte de géotrouve-tout, de boîte à outils de la vie d'entreprise. Les coachs font de plus en plus figure de médecins de la vie d'entreprise au chevet de ses misères. Notre premier coach, lui, a un sujet de prédilection, le leadership, en français l'autorité, la vraie, la capacité à entraîner, à donner envie de décrocher la lune, pourrait-on dire, tout un programme. Coaching et vie d'entreprise, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Première, non pas d'une série, mais d'une habitude qu'on va essayer de prendre pour tous ceux qui travaillent. Et puis ça intéressera certainement les autres, parce qu'il y a des liens quand même, de grands liens avec différents types d'engagement. Hein. On peut travailler sans avoir une activité salariée. On le dit assez à cette antenne, comme nous le dit la doctrine sociale de l'Église. Ce matin, on va commencer avec vous, Ménéric Sossé. Vous êtes enseignant en philosophie à l'Institut catholique de Toulouse et au séminaire Saint-Cyprien, dans cette même ville rose. Et vous êtes apprenti coach. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci donc d'avoir fait un détour par nos studios. Alors on commence par un philosophe. Donc vous êtes vous êtes jeune. Moi en tout cas je vous vois. Donc ça s'entend peut-être un petit peu aussi au son de votre voix, mais peu importe, c'est pas du tout un handicap d'être jeune. Voilà, donc vous êtes enseignant, on l'a dit, au séminaire Saint-Cyprien, à l'ICT, puis aussi à l'université Paul Sabatier. Vous intervenez, vous donnez justement des cours sur le leadership. Ma première question, puisque c'est semble-t-il votre grande conviction, pourquoi la philosophie peut aider en fait le monde de l'entreprise?
Alors effectivement, c'est ma grande conviction. Pour résumer cela en une phrase, je dirais que j'aimerais mettre l'héritage philosophique au service des leaders dont le monde a besoin. Et en cela, j'essaie de m'inscrire dans l'héritage de Platon ou d'Aristote, Platon qui a formé des rois, ou Aristote qui a été, on l'oublie souvent, mais le précepteur d'Alexandre le Grand, par exemple. Et les rois, les conquérants comme Alexandre, sont des personnes qui ont finalement formé aussi la société, qui ont aidé la société à avancer. Alors, pas forcément dans les directions que l'on veut, mais de fait, la grande pensée de Platon, c'était de penser que le leader, celui qui devait guider les autres, était aussi celui qui savait. Et en fait, je me suis aperçu dans le monde de l'université, en philosophie, qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient, mais qui ne mettaient pas ça au service de la société. Il y avait une grande différence entre ce que les philosophes savaient et ce que le monde de l'entreprise savait. Ce que j'essaie de faire, à ma manière, c'est de transmettre cet héritage philosophique aux entreprises, au moyen de formation, au moyen de coaching.
Alors, pour les néophytes que nous sommes, est-ce que vous pourriez aussi nous dire, vaste question, vous me direz, mais la philosophie, comment vous présenteriez? C'est quoi? C'est l'art du juste raisonnement, l'art de la logique?
Alors, c'est une excellente question. À dire vrai, je la distinguerai en trois parties, simplement. La philosophie, c'est à la fois la recherche de la vérité, la recherche du bien et la recherche du raisonnement juste, comme vous l'avez très bien dit. La première partie est spéculative, elle est contemplative, et c'est pas forcément ce qui, à mon avis, intéressera immédiatement le monde de l'entreprise. L'étude du premier moteur immobile est intéressante, mais c'est pas forcément ce que le CEO d'une boîte va forcément rechercher de prime abord. La deuxième partie, en revanche, et la troisième partie sont, à mon avis, tout à fait fondamentales. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la philosophie pratique, qui va porter sur l'élection, sur le discernement du bien vers lequel on tend, une sorte de bien final, et sur la détermination concrète des moyens que l'on peut mettre en place pour atteindre cette fin. Donc, pour reprendre, premier point, connaître cette fin. Deuxièmement, établir les moyens pour atteindre cette fin. Et la troisième partie est, à mon avis, fondamentale, c'est ce qu'on peut appeler la logique, et c'est la discipline qui va nous permettre de penser avec ordre, facilité et sans erreur. C'est essentiel lorsqu'on cherche à communiquer une vision, une pensée, un objectif.
Sans erreur, vous y allez pas un petit peu fort, non? Ça peut être l'art de bien penser, mais pas forcément sans erreur.
C'est en tout cas l'idée. L'idée, c'est quand même de tendre à avoir un discours qui soit sans erreur. Ensuite, on fait ce qu'on peut. Et il y a une partie que j'aime bien, qui amuse souvent les étudiants, c'est ce qu'on appelle la sophistique. Et alors, ils pensent tout de suite que la sophistique, ça va être l'art de faire des sophismes. Alors qu'en fait, c'est l'art de débusquer les erreurs de raisonnement que les autres font. mais que nous aussi nous faisons. Et donc l'idée, c'est de s'améliorer au fur et à mesure pour que ceux qui sont, pour que tous deviennent bons et que ceux qui sont déjà bons deviennent excellents.
Voilà, c'est pas toujours comme ça en effet qu'est compris, la sophistique, parce que enfin, j'ai le souvenir qu'entre autres c'était des reproches qu'on pouvait faire à certains hommes politiques. Je n'en citerai pas pour ne fâcher personne. Alors vous, donc votre sujet de prédilection, donc c'est le leadership. Ce qu'on entend derrière, c'est vrai que c'est un mot dont on entend beaucoup parler, certainement parce que ça n'est pas simple en fait d'être un leader et d'être un vrai leader. Et on entend derrière que vous voulez en fait l'aider aussi à devenir un sage, en tout cas qu'un bon leader serait aussi un sage. Alors vous commencez souvent par parler ou présenter Martin Luther King et son fameux discours « I have a dream ». Et vous laissez entendre que la manière qu'il a eu de dérouler en fait ce grand discours révèle, on va dire, la quintessence de ce que serait un leader. Pourquoi ?
Eh bien, pour une simple raison, c'est le titre, en tout cas tel qu'on le transmet, « I have a dream ». C'est-à-dire que ce que propose Martin Luther King, c'est pas un business model, c'est pas un business plan, c'est pas une liste d'objectifs à atteindre. Et lorsque toutes les cases auront été cochées, bon, bah, c'est parfait, on a réussi à atteindre notre finalité et maintenant on passe à autre chose. C'est quelque chose, au contraire, qu'il a présenté, « have a dream », c'est un rêve, c'est une vision, c'est l'idée d'un monde fondé sur l'égalité, et finalement, c'est quelque chose qui est à reconquérir à chaque génération. Et c'est justement ça...
C'est un horizon, en fait.
C'est ça, c'est un horizon. Si ce n'est que l'horizon, on ne l'atteint jamais. Le leader, il y a ce terme « hope » que nous pouvons retrouver dans le discours de Martin Luther King, c'est véritablement un espoir. On en parlera peut-être plus tard, mais ça signifie que c'est le leader, il croit que la finalité vers laquelle il tend, elle est réalisable. Et c'est pas simplement un horizon où on croit que finalement on n'arrivera jamais à l'atteindre, mais bon, on va quand même essayer. Non, on peut la réaliser, mais elle sera toujours à améliorer.
Alors, l'autre chose sur ce sujet, c'est que vous dites qu'il y a une mauvaise manière, on va dire, d'être un leader, c'est d'inverser l'ordre des questions auxquelles on est censé répondre. Donc, ces questions, c'est en anglais « what, how et why ». En français, ça donne « que faisons-nous ? Comment le faisons-nous ? Pourquoi le faisons-nous ? Quelle est la bonne et la mauvaise manière de présenter cet ordre de questions et du coup, d'être un leader ?»
Tout à fait. Ce qui est premier dans l'action, c'est la finalité. Ça, c'est vraiment le point fondamental par rapport à ce que vous venez d'indiquer. C'est quelque chose que Platon, que les médiévaux, comme Thomas d'Aquin, savaient très bien. C'est que ce qui est premier dans l'ordre de l'action, c'est l'intention. Pourquoi est-ce que j'agis ? Pourquoi est-ce que je suis venu, moi, aujourd'hui, ici ? Pourquoi est-ce que l'on va manger ? Pourquoi est-ce qu'on va prendre le tram plutôt que le bus, etc. La grande majeure partie de nos actions sont finalisées. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer...
Même si on ne s'en rend pas toujours compte.
Même si on ne s'en rend pas toujours compte.
Parfois, on agit, on va dire, un peu comme le hamster dans la roue.
C'est tout à fait ça. Et métro, boulot, dodo. Et justement, ce dont j'ai pu m'apercevoir, je suis beaucoup en contact avec les startups. Et en fait, j'ai pu m'apercevoir qu'au début, il y avait vraiment un projet, une idée révolutionnaire, une idée innovante. Et en fait, plus les mois passaient, plus ils se sont rendus compte des difficultés qu'il y avait à traiter, que ce soit des difficultés financières, des difficultés liées aux personnes, etc. Et il y avait un moment où la vision, ce vers quoi elle tendait à laisser le pas et la part belle à toutes les difficultés. C'est-à-dire qu'ils oubliaient pourquoi est-ce qu'ils le faisaient, mais ils insistaient sur ce qu'ils faisaient. Et à mon avis, c'est là le rôle d'un coach, justement. C'est aussi d'aider la personne à avoir un peu de recul pour qu'elle, non seulement elle prenne conscience de ce, pardon, non, pour que non seulement elle sache quelle est la finalité de son action, mais qu'elle en prenne conscience au quotidien. Pour que ce soit pas simplement juste l'occasion de développer un acte de communication pour attirer des clients, mais que ce soit vraiment quelque chose que le leader puisse vivre au quotidien et du coup transmettre dans ses paroles et dans ses actes.
Alors autre chose, c'est que vous faites donc une distinction importante entre la vision et les objectifs. Certainement que ça va parler à tous ceux qui travaillent dans le monde de l'entreprise, parce que bien souvent, on a des objectifs ou on en fixe à des collaborateurs. La vision, c'est probablement une autre affaire. Quel distinguo est-ce l'étape d'après? Comment comment vous faites la nuance?
Alors, pour prendre un exemple concret, il y a une entreprise qui s'appelle Catspad et dont la punchline, comme on dit, est Smart Solution for Pet Care, les technologies intelligentes au service de la santé animale, du soin des animaux. Ça, c'est une vision. Pourquoi ? Parce que il n'y a rien de quantifiable. C'est quelque chose vers lequel on continue toujours à tendre. Vous appeliez ça tout à l'heure à un horizon. En revanche, l'objectif, lui, il doit être concret. Il y a une méthode que je trouve intéressante, au moins dans l'intitulé, qui s'appelle la méthode SMART. Et en fait, chaque lettre veut signifier quelque chose. S pour spécifique, c'est-à-dire que l'objectif, il doit être déterminé. Une personne qui veut, par exemple, se former à la philosophie, eh bien, il faut être spécifique. Est-ce que c'est vouloir suivre des cours? Est-ce que c'est acquérir une culture philosophique? Est-ce que ça va être acquérir l'art du raisonnement, etc. Premièrement, il faut que ce soit spécifique. Deuxièmement, il faut que ce soit mesurable. Comment est-ce qu'on peut évaluer l'atteinte de l'objectif? C'est particulièrement difficile. Alors, le nom m'échappe, mais il y avait la Harvard Business Review avait publié un article justement sur ce sujet. C'est pas parce qu'on traite de quelque chose qui n'est pas quantifiable qu'on ne doit pas pouvoir le mesurer. C'est toute la difficulté qu'il y a à apprendre à mesurer aussi des choses qui sont de l'ordre qualitatif, comme la satisfaction client par exemple. C'est important de pouvoir le mesurer pour pouvoir rendre compte de l'atteinte de l'objectif. Le troisième point, c'est atteignable. Est-ce que cet objectif, il est atteignable en soi? Il y avait une startup comme ça qui avait comme projet de créer un village sur la Lune. Eh bien, en fait, leur business model ne consistait pas à financer directement le village, parce que ce n'est pas immédiatement atteignable. Ils veulent financer ça en finançant les technologies qu'ils développent pour ultimement, dans des années et des années, éventuellement pouvoir fonder un village sur la Lune.
Donc on est à SMA et il reste
RET. R, réalisable, ok, c'est atteignable en soi, mais est-ce que c'est réalisable pour moi? Est-ce que j'en ai les capacités? Il y a des personnes qui, comme ça, ont des idées extraordinaires, mais qui n'en ont pas forcément la capacité par eux-mêmes. Ça, par exemple, c'est là où, par exemple, un leader va pouvoir dire, mais ça, on pourrait l'atteindre en soi, mais moi, j'en ai pas la capacité. Et donc, il va donner la mission, cet objectif, à un de ses associés ou à une des personnes qu'il a sous sa responsabilité. Et enfin, T, essentiel, le temps. Il faut que l'objectif soit déterminé dans le temps. Il faut être capable de dire, d'évaluer l'objectif, l'atteinte de l'objectif à un moment T. Je donne un exemple très simple. Lorsqu'on fait des réunions avec un ordre du jour, il y a 10 éléments dans l'ordre du jour et il y a de nombreuses réunions.
Et on en fait 5.
C'est ça, on arrive au 5e et il est déjà plus que l'heure et donc on est en retard. Ce qui est intéressant, c'est de fixer, si l'objectif c'est de traiter chacun des 10 points, eh bien il faut le mesurer dans le temps. On alloue 10 minutes à ce point, 15 minutes à celui-ci, 20 minutes à celui-là. Et si ça dépasse une heure et que la réunion devait durer une heure, eh bien c'est là où on va apprendre à diminuer le nombre d'objectifs, à les proportionner, etc.
Alors Merderic Sossé, donc ça c'est là, on va dire la digression mais importante sur donc SMART. Si on en revient au leader avant qu'on fasse une première pause, moi j'ai une question qui me trotte souvent dans la tête quand j'entends parler de cela, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'en fait il y a aussi dans cette injonction à devenir un leader ou à développer son leadership une forme de dérive d'une société, on va dire. Qui vise à tout prix la performance. Il faudrait que chacun devienne une espèce de super-héros, de leader. Peut-on tous devenir des leaders, en fait? Est-ce que ça n'est pas donné juste à quelques-uns qui sont là pour rendre ce service, tout simplement?
Alors, je dirais deux choses. La première chose, c'est que tous, nous pouvons être un leader, pour répondre formellement à la question. Ensuite, la question, c'est quel leader? Il y avait je donne régulièrement cours à Paul Sabatier et souvent lorsque je donne ce cours sur le leadership, il y a toujours un étudiant ou deux qui lève la main et qui dit « Mais moi, je ne veux pas devenir un leader ». C'est-à-dire qu'il ne veut pas devenir, il veut pas devenir le premier. Et en fait, lorsque je continue à lui poser des questions à ces personnes-là, on se rend compte qu'ils ne veulent pas non plus être simplement des exécutants. La position de cadre intermédiaire, par exemple, est une position qui leur convient en général assez bien. Je donne cours à des masters ou à des doctorants. Et on se rend compte qu'en fait, le cadre intermédiaire, par exemple, il est à la fois un leader et un follower. Il est à la fois une personne qui en guide d'autres, qui a une autorité sur d'autres, et en même temps qui dépend d'autres personnes et qui souhaite dépendre d'autres personnes.
Alors pourquoi est-ce qu'on est tous appelés à devenir des leaders? C'est-à-dire qu'on peut dire aussi quelqu'un qui travaille dans le monde associatif, une mère de famille.
Exactement.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, en fait, la question, c'est de savoir, pour moi, être un leader, fondamentalement, c'est celui qui est capable d'incarner une vision en raison des objectifs concrets. Pour prendre la mère de famille, je pense à une personne en particulier dont je garde le nom pour moi, eh bien, sa vision, c'est d'avoir une famille qui soit unie et dont les valeurs puissent être transmises à ses enfants, tout en permettant à ses enfants de aussi développer leurs propres compétences indépendamment de ce qu'elles pensent être bon pour eux ou non. Et les objectifs qu'elle a mis en place par rapport à ça, c'est à la fois de prendre des temps réguliers avec ses enfants où elle rend compte de l'éducation qu'elle leur a donnée, pour que non seulement ils aient ces valeurs, mais qu'ils sachent pourquoi ces valeurs leur ont été transmises.
Elle rend intelligible sa vision.
Exactement. Et enfin, elle les envoie vers d'autres institutions pour qu'ils puissent aussi développer des compétences qui leur sont propres, c'est-à-dire que, et elle fait quelque chose de très beau à mon avis, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte que ses enfants soient remis à la responsabilité d'autres personnes plus compétentes qu'elle sur tel ou tel domaine. C'est ce que dit Thomas d'Aquin, un philosophe et un théologien, par rapport au rôle du maître. Le maître, c'est celui qui rend le disciple semblable à lui. Le leader, c'est celui qui fait en sorte que les followers deviennent d'autres leaders, de la manière qu'un parent fait en sorte que ses enfants deviennent adultes. Et à côté de ça, eh bien, il va remettre ses enfants dans les mains des personnes plus compétentes que lui sur tel ou tel domaine, de la même manière qu'un leader pourra remettre ses employés, par exemple, pour être concret, dans les mains d'une personne plus compétente que lui pour tel ou tel domaine.
Et pourquoi pas d'un coach.
Médéric
Sossé, on va faire une première pause. Je rappelle, vous êtes donc enseignant en philosophie à l'Institut catholique de Toulouse et au séminaire Saint-Cyprien dans cette même ville ce matin, et apprenti donc coach ce matin, le leadership. On va dans une deuxième partie parler des vertus, parce que le leader, c'est aussi donc, à vous entendre, quelqu'un qui développe une certaine sagesse et entre autres un certain nombre de vertus, dites-vous, indispensables à faire un bon leader.
Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Coaching et vie d'entreprise, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, première du genre. On va essayer de faire des rendez-vous réguliers autour de la vie d'entreprise avec comme prisme cette année donc d'inviter des coachs. Je disais avec un sourire évidemment, ces espèces de médecins généralistes de la vie d'entreprise qui viennent au chevet d'une vie souvent compliquée pour apporter des clés et des solutions. Et c'est le cas donc de Médéric Sausset. Vous êtes enseignant en philosophie à l'Institut catholique de Toulouse et au séminaire Saint-Cyprien dans cette même ville, et donc apprenti coach. C'est en tout cas comme ça que vous vous présentez. Donc votre conviction, c'est que un leader, vous nous l'avez dit, c'est une espèce de Martin Luther King, on va dire, à son échelle, qui s'est proposé une vision, donc un rêve qui soit en fait une espérance, c'est-à-dire quelque chose qui soit atteignable, qu'il faut derrière développer un certain nombre d'objectifs pour ça. Mais à vous entendre aussi, donc un leader, c'est quelqu'un, ça se construit en fait. Hein. Vous avez pris l'exemple d'Aristote et de d'autres philosophes qui aidaient des grands de cette époque, en tout cas des puissants, à devenir des leaders. Pourquoi ce travail sur soi en fait est indispensable?
Eh bien, parce que c'est une relation de personne à personne. Le leader, on parle souvent du leader comme si c'était un en soi, comme si c'était une statue d'airain ou une statue d'or mise au milieu de la place publique. Alors qu'en réalité, et ça c'est parce que j'ai appris à faire du swing justement dans la ville rose, je fais du boogie-woogie. Et en fait, en danse, en danse de couple, on apprend qu'il y a toujours un leader et par voie de conséquence, un follower. Un leader n'existe pas tout seul. Sinon, on parle de danse solo. Et donc, en fait, je me suis aperçu en étudiant un peu la question du leadership qu'on le présentait souvent comme un en soi. Et alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une relation de personne à personne. Et c'est la raison pour laquelle, mon avis, c'est que pour devenir un leader, ce ne sont pas d'abord des outils qu'il faut travailler, comme la méthode SMART que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est d'abord des compétences qu'on pourrait appeler des compétences humaines. C'est ce que les philosophes antiques et médiévaux appelaient des vertus. Et je crois que c'est la première des choses dont il convient de faire l'acquisition pour devenir un excellent leader ou un excellent follower.
Alors en l'occurrence, vous appuyez d'abord sur ce qu'on appelle les vertus cardinales, qui sont bien connues des chrétiens, on va les rappeler, la prudence, la justice, la tempérance et la force, qui marchent un peu par binôme. Mm-hmm. En l'occurrence, je ne les ai pas citées par binôme, donc je vais vous laisser le faire. Comment vous présenteriez ces vertus cardinales? Est-ce que vous pouvez nous les remettre en tête, mm-hmm, et nous expliquer les articulations de ces binômes?
Bien sûr. Donc, quatre vertus cardinales. Juste un petit mot sur cardo cardinis. Je suis philosophe, donc faut que je dise au moins une fois un mot latin. Cardo cardinis, c'est les gonds d'une porte. C'est ce sur quoi tourne une porte. Et les vertus cardinales, c'est vraiment ce sur quoi tourne la vie pratique. C'est ce qui ouvre la porte à la vie, à une vie heureuse, à une vie excellente. Le mot excellent est pas de moi. Hein. C'est celui de Platon, qui justement parle de ces quatre vertus-là comme étant les quatre excellences de la cité qu'on retrouve aussi en nous.
Excellence, comment il faut le comprendre en fait?
Comme étant
une manière de bien vivre, tout simplement, ou...
Oui, et même de vivre, non seulement de bien vivre, mais de vivre de manière excellente. C'est-à-dire que c'est un rôle de d'exemplarité par rapport à toute autre chose.
Alors ensuite, ces binômes, comment fonctionnent-ils?
Alors, ceux qui marchent vraiment en binôme, c'est le courage et la tempérance. Ensuite, celle qui prime sur les quatre vertus cardinales, c'est la prudence. Bon, alors là, ça dépend des philosophes, mais je m'explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, la prudence, c'est la vertu par laquelle on va discerner les objectifs à mettre en place pour atteindre une vision, pour reprendre les termes que j'ai employés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une finalité et quels sont les moyens que je vais mettre en place pour l'atteindre. Je vais à Paris, quels sont les moyens que je vais mettre en place pour aller à Paris? Fonction du temps, de l'argent et de la finalité avec laquelle on va à Paris, eh bien, on ne va pas forcément utiliser le même moyen de locomotion.
A fortiori, quand on veut construire une ville sur la Lune, comme vous disiez, pour une entreprise.
C'est exactement ça. Et donc, c'est la même chose pour une personne qui veut devenir un leader. Eh bien, il devra, pareil, discerner les moyens à mettre en place pour atteindre cette fin. L'autre vertu, c'est la vertu de justice, qu'on définit souvent comme étant rendre à chacun ce qui lui est dû, et qui est à mon avis essentiel dans le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que on se rend compte, la méthode Rowe l'a manifesté, que un employé était d'autant plus performant, d'autant plus heureux de venir là où il travaille, s'il était reconnu dans, dans comment dirais-je, en tant qu'il était reconnu par rapport à ce pourquoi il était compétent, par rapport aux objectifs qu'il a pu atteindre, etc. Est-ce qu'il est reconnu ? Et le leader est justement celui qui peut reconnaître par rapport aux employés ce qu'il aurait dû, les féliciter, les mettre en avant, etc. Et ça, c'est vraiment important. Je vous donne un exemple tout simple. Il y avait une entreprise comme ça. C'était une entreprise qui de transport. Vous savez, on envoyait les colis et c'était le lieu où ils réceptionnaient les colis pour les renvoyer par des camions. Et en fait, ces personnes-là considéraient qu'ils étaient déconsidérés. Et du coup, ils se sont mis en grève, une personne les a aidés, et en fait, les a aidés à prendre conscience que vous et moi, on leur remet notre vie. Parce qu'on va leur envoyer les colis qu'on va envoyer à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, pour leur anniversaire. C'est là aussi on va envoyer les documents importants du point de vue administratif. Et en fait, ils sont les garants d'une société qui peut accomplir ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire le bonheur de tous. Et à partir du moment où ils ont pris conscience de ça, eh bien, ils se sont sentis reconsidérés dans leur position, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis considérés tels qu'ils devaient être considérés. Il y a une justice qui a été exercée à leur égard. Et à mon avis, c'est vraiment la vertu qui prime par rapport à la société.
Alors à vous entendre, donc, la justice, c'est pas seulement entre guillemets d'être juste au premier degré, c'est aussi de reconnaître dans quel ordre en fait les gens avec qui on travaille sont appelés à agir.
C'est ça.
Alors il y a deux grandes vertus que doit avoir un leader. Ça peut paraître la première un mot compliqué, mais vous allez nous l'expliquer, c'est la magnanimité et l'humilité. Je le résume et je vais vous laisser le développer. Le leader, ce serait celui en fait qui est appelé à voir grand et pour tous, et en même temps quelqu'un qui dans le fond sait qu'il n'est que lui-même et qu'il ne peut rien faire sans les autres. Alors expliquez-nous magnanimité, pardon, vous voyez j'ai du mal, et humilité.
Alors la magnanimité, c'est la vertu effectivement de l'excellence. C'est celle qui va amener toutes les autres vertus à leur point le plus haut. Sur ce point, en toute justice, il est heureux de nommer l'Institut du leadership vertueux qui travaille beaucoup cette notion-là, donc avec Alexandre Yaninavard, qui a largement travaillé cette notion directement dans l'héritage aristotélicien et thomasien. En fait, tout à l'heure...
Thomasien, c'est Saint Thomas.
Thomasien, c'est Saint Thomas, exactement. Un petit biais universitaire. Et donc, on se rend compte que Aristote ne cherchait pas simplement à bien vivre. Il cherchait, en fait, à atteindre le plus haut degré de perfection dans tout ce qu'il faisait. Et justement, le leader, il a à être magnanime, c'est-à-dire qu'il a à rechercher les visions qui vont vraiment permettre de pouvoir révolutionner la société.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple alors ?
Alors, de personnes magnanimes, c'est toujours délicat.
Si vous reprenez Martin Luther King,
oui,
en l'occurrence.
Je prendrai Martin Luther King, dans ce cas-là, je pensais prendre Michelin.
Vous prenez qui vous voulez, prenez Michelin, très bien.
En fait, Michelin, dans sa manière de créer son entreprise, justement, a permis de faire prendre conscience à ses employés que c'était pas seulement eux en fait qui faisaient partie de Michelin, mais que c'était toute la famille qui était assumée par l'entreprise de Michelin. Il avait créé parmi l'érection d'écoles, etc. Et c'est justement intéressant, ici il fait preuve de il y avait bien une preuve de magnanimité, parce que le leader de cette entreprise n'a pas cherché simplement à développer le bien de l'employé qu'il avait sous sa coupe entre guillemets, mais le bien de toute la famille,
ce qui est déjà beaucoup,
oui. Mais le bien de toute la famille que cette personne avait. Martin Luther King était également magnanime parce que c'était une personne qui a accepté de se mettre lui-même en danger pour pouvoir justement défendre la vision qu'il pensait pouvoir révolutionner l'ensemble de la société.
Alors, vous avez une autre expression, vous dites que le leader, c'est être garant de la vision qui est source d'espoir pour lui et toutes les personnes qui l'ont rejoint, et à vous entendre même par ricochet, donc pour les familles ou pour la société dans laquelle s'inscrit l'entreprise. L'autre grande vertu, c'est donc l'humilité. Vous citez pour cela une habitude qui était prise dans la Rome antique, où un serviteur était chargé de rappeler à un général, après une grande victoire, qu'il n'était que mortel. Racontez-nous pour commencer cette petite histoire.
Alors oui, vous savez, c'est assez classique. Lorsque un général romain avait effectivement remporté une grande victoire, il pouvait parader dans les rues de Rome, acclamé par la foule. Et évidemment, lorsqu'on est acclamé par une foule, ça dispose à la grandeur. On prend conscience que l'on est magnanime, que l'on a posé un acte de magnanimité, puisqu'on a pu sauver la cité, on a pu étendre son pouvoir, etc. Et derrière, un esclave, donc le plus petit parmi les plus petits, lui rappelait dans l'oreille « Souviens-toi que tu n'es qu'un homme ». Cette phrase est intéressante parce que cela vient signifier aussi que les honneurs que le général reçoit, ce sont des honneurs qui sont grands, c'est ce sur quoi porte la magnanimité, au passage, mais il n'en demeure pas moins que ces honneurs, il le reçoit de quelqu'un. Saint Albert, un autre philosophe théologien, disait que la magnanimité et l'humilité, c'était la même vertu. La magnanimité, c'était le fait de posséder en soi de grandes choses, être capable de grandes choses. Mais l'humilité, c'était d'être capable de savoir qu'on les reçoit de quelqu'un d'autre. L'humilité, c'est la vertu par laquelle on sait qu'on reçoit toujours, que tout ce que nous avons, nous le recevons toujours d'autrui. Et j'ai toujours admiré ces personnes, ces leaders qui étaient toujours capables d'identifier par rapport à tout ce qu'ils faisaient, de qui est-ce qu'ils tenaient ça. Et c'était pas forcément des personnes en vue, etc. Ça pouvait parfois des employés qui les avaient aidés sur tel point, et en fait, ils les saluaient. L'humilité est vraiment la vertu par laquelle on est capable justement d'exercer la justice dont nous parlions tout à l'heure, et en rendant chacun ce qui est dû, et être capable d'endurer la critique. Il y a aujourd'hui des personnes qui, parce qu'ils sont aux responsabilités, ont du mal à endurer la critique, parce qu'ils pensent que endurer une critique, c'est dévaluer leur statut. Alors même que justement, s'ils sont capables de recevoir une critique et de pouvoir essayer d'agir en conséquence, ça va créer un lien de confiance entre la personne qui est en responsabilité et le responsable.
Alors il y a autre chose que vous soulignez à propos du leader, c'est que vous avez dit que les followers, alors en français donc toutes les personnes qui sont appelées à suivre le leader, qui sont entraînées donc normalement dans sa vision et dans les objectifs qu'il formule, même si ça peut être un travail collectif, il y a aussi des vertus, on va dire, de l'autre côté ou en face à cultiver, et qu'il n'y a pas à vous entendre en fait de bon leader sans que en face il y ait aussi j'allais dire de bons employés, ou en tout cas de bons followers, bref, on a compris. Ces vertus, vous dites qu'il y en a trois, l'attention, la bienveillance et la docilité. Alors la bienveillance, je pense que ça parlera à beaucoup, parce que c'est pas toujours le cas dans la vie d'entreprise. Expliquez-nous l'attention, la bienveillance et la docilité.
Alors effectivement, ce que je crois fondamentalement, c'est que la réalisation d'une vision, c'est l'acte commun des leaders et des followers. C'est pas les followers sont pas de simples exécutants, ce sont des personnes avec leurs rêves, leur propre vision, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le follower, même s'il est participant de cette vision, il dépend tout de même de la vision de quelqu'un d'autre. Et Saint Thomas, dans un de ses commentaires philosophiques, développe trois vertus qu'il appelle les vertus de l'auditeur. Donc l'attention, la bienveillance et la docilité. L'attention, c'est le fait de prendre conscience de la difficulté. On est attentif lorsqu'on prend conscience de quelque chose de difficile. Si je vous explique quelque chose sur le journalisme, eh bien vous porteriez pas forcément beaucoup d'attention parce que je n'y connais pas grand-chose. Donc il n'y aurait aucune difficulté à ce que je dirais. Mais justement, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les entreprises, s'il y a par exemple un pôle market et un pôle ingé, eh bien le pôle market ne va pas forcément porter attention aux difficultés du poulanger et inversement. Ils n'ont pas forcément ni le même langage, ni les mêmes perspectives, ni les mêmes manières d'appréhender, par exemple, la ligne du temps dans la réalisation d'un objectif. Et justement, l'attention, c'est vraiment l'acte par lequel une personne peut être peut porter attention aux difficultés que d'autres personnes que lui-même peut ressentir.
Et en l'occurrence du leader, ça peut être aussi ça.
Et en l'occurrence du leader. Ce que je crois fondamentalement, c'est que, justement, c'est très intéressant quand on étudie les pôles dans une entreprise, c'est que dans certaines situations, indépendamment de la vision pyramidale, on est tous à un moment ou à un autre follower par rapport à quelqu'un d'autre. On a des personnes maintenant dans l'entreprise qui prennent soin de l'ensemble de l'entreprise. Le nom m'échappe à l'instant. Et en fait, le leader, même le CEO, eh bien, il dépend de cette personne justement lorsqu'il y aura un team building qui aura été fait. Bah, il dépend de cette personne qui a réalisé ça. Le leader lui-même peut parfois, devrait parfois, se mettre en position de follower.
Alors, l'attention, deuxième point, donc la bienveillance. On comprend davantage, est-ce que vous pouvez l'expliciter quand même ?
La bienveillance, je vais prendre un exemple tout simple. La bienveillance, c'est être capable de toujours discerner quelque chose de bien dans ce qu'on peut entendre, voir, etc.
C'est-à-dire prendre l'habitude de voir le verre à moitié plein, c'est ça ou...
On pourrait dire ça comme ça, effectivement. J'aime beaucoup cet exemple et je ne me lasse pas d'en parler. C'est Pétrarque qui dit que lorsqu'on écoute quelqu'un, il faut toujours être capable de recevoir quelque chose de bon, ne serait-ce que le timbre de la voix. C'est très accidentel, mais en réalité, ça permet d'avoir toujours un regard bienveillant et, ce faisant, peut-être de modérer les critiques que l'on fera. Et donc, en fait, ça entraîne en nous ça dispose à une certaine douceur dans les relations. Et ça, à mon avis, dans un monde qui peut être très dur, justement, développer la douceur en entreprise peut être, à mon avis, une chance pour que les personnes puissent travailler ensemble.
Troisième vertu, on finira par ça avant de faire une pause, du follower, ça serait donc la docilité, mot qui peut prêter à ambiguïté.
Clairement. La docilité peut être vue justement comme étant une faiblesse. Pourquoi ? Parce que être docile, ça veut dire par nature dépendre de quelqu'un d'autre. Là ici, il s'agirait plutôt, tout à l'heure je comparais le leader à un parent, là il s'agirait plutôt de la docilité de l'enfant, c'est-à-dire celui qui sait qu'il a à recevoir de quelqu'un d'autre. Et la docilité ici va pas du tout être quelque chose de l'ordre des moutons de Panurge qui suivraient aveuglément pour aller à l'abattoir, mais au contraire celui qui va reconnaître dans le leader une personne que l'on peut imiter sous un certain rapport. Et ça, à mon avis, c'est absolument essentiel lorsqu'on dit qu'une personne est un leader.
Qu'on peut imiter ou en qui on peut faire confiance ?
Alors,
c'est la même chose ou...
Ça dépend, parce qu'il y a des personnes que l'on peut imiter, mais auxquelles on ne fait pas forcément confiance. Ça peut être encore différent, et à mon avis, le leader, c'est à la fois celui qu'on peut imiter et en qui on a confiance. C'est la différence, qui, à mon avis, qu'il y aurait entre un modèle, sous un certain rapport, et vraiment un leader où il y a vraiment une relation de confiance, si j'ose le mot, un rapport de disciple à maître.
On va faire une deuxième pause pour vous retrouver après Médéric sur un dernier point, le rôle des émotions. Les émotions, dites-vous et vous réfléchissez en philosophe, ne sont pas à évacuer dans la vie de l'entreprise et pour devenir un bon leader. Il faut simplement apprendre à les gérer. On fera pas le tour de la question, mais au moins vous nous donnerez votre regard philosophique et de coach sur le sujet.
Thank you. Plaisance à Cahors, 92.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Coaching et vie d'entreprise, c'est pour rappel donc le thème de l'émission de ce jour, avec aujourd'hui comme premier coach de cette série, puisqu'il se lance dans ce métier, Médéric Saucet. Vous êtes enseignant donc en philosophie à l'Institut catholique de Toulouse et au séminaire Saint-Cyprien de cette même ville. Dernière partie donc dans votre on va dire axe de développement que vous proposez donc pour la vie d'entreprise autour de cette notion de leadership, c'est le rôle des émotions. Vous dites que les émotions, on va dire, ne sont pas à nier ou à supprimer, loin s'en faut, dans la vie de l'entreprise. Alors, on se dit à la fois, je réagis, hein, comme on va dire, comme simple, on va dire, travailleur. On se dit heureusement qu'il pense comme tel, mais rien de nouveau sous le soleil. Alors, précisez-nous pourquoi ce point d'attention vous semble si important à souligner.
Alors, pour être tout à fait honnête, ça vient de ma vie personnelle. C'est-à-dire que je me suis aperçu très souvent que certaines de mes émotions ne m'aidaient pas forcément à réaliser mes projets. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'essayais de vaincre mes émotions, comme si c'était un ennemi, comme si il fallait que je puisse détruire quelque chose de moi pour vivre mieux, simplement en fonction de ma raison. En fait, après tout, j'ai trouvé que c'était dommage parce que je suis aussi un être plein d'émotions et c'est ça qui m'a fait rencontrer mon épouse, c'est ça qui m'a fait embrasser mon travail, etc. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est simplement, plutôt que d'attaquer mes émotions, de vaincre mes émotions, ça a été simplement de les ordonner à mes projets. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil, encore une fois, mais l'idée est vraiment toute simple. Pour prendre une émotion que beaucoup ressentent, le stress, je me suis demandé simplement comment pouvoir la gérer au quotidien. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec certains amis et puis finalement en lisant certains ouvrages, mais ce n'est venu qu'après, qu'il y avait différents types de stress. Il y a le stress du lapin qui est sur une route devant les phares d'une voiture allumée, c'est qu'en fait ça immobilise complètement. C'est ce que Thomas d'Aquin appelle la stupeur. C'est vraiment celle qui va bloquer complètement l'action. C'est celle qui va empêcher une personne d'exposer son profil à un entretien d'embauche. C'est ce qui va empêcher un étudiant de présenter son examen. C'est ce qui va empêcher un start-upper de pitcher devant des investisseurs pour pouvoir avoir des fonds. Et il y a un autre type de stress qui est au contraire un stress qui rend attentif. Justement parce qu'il y a une possibilité de manquer la finalité. Il y a des difficultés objectives et il est possible que ça conduise à un échec. Mais ça va quand même pousser à l'action. Mais avec du coup une audace tout à fait renouvelée.
Alors citez-nous quelques-unes de ces grandes émotions qui nous traversent et auxquelles il faut être attentif avant qu'on voit les trois manières que vous avez de proposer d'apprendre à les gérer.
Alors bien sûr... Pour partir du stress, si on l'analyse à partir des émotions principales, eh bien en fait on voit que ce mot-là renvoie par exemple à deux émotions. À l'espoir, comme nous avons déjà évoqué en première partie, et au désespoir. Le point commun entre l'espoir et le désespoir, c'est que ça porte tous les deux sur un bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord. Pourquoi ? Parce que l'espoir, ça porte sur un bien futur, par exemple devenir CEO d'un grand compte, mais c'est un bien futur jugé difficile à atteindre, mais qu'on pense pouvoir quand même atteindre. C'est réalisable.
Juste CEO pour ceux qui ne connaissent pas.
Directeur général.
Voilà.
Et à côté de ça, le désespoir, c'est celle qui va porter sur un bien futur, pareil, devenir directeur général, mais on considère que c'est pas possible. Ah oui, mais ça, j'y arriverai jamais. Là. C'est bien un bien futur, mais qu'on juge trop difficile à atteindre pour nous. Espoir, désespoir. Et en fait, on remarque que l'espoir se distingue du désespoir du fait qu'il y a, en fait, il y a une volonté de réussir qui est vraiment extrêmement importante. C'est ce qu'on appellera l'audace, justement.
Alors, les émotions, je vais les citer, parce que j'aimerais qu'on passe à la gestion. Vous dites qu'il y a quatre émotions fondamentales, le désir, l'aversion, la joie, la tristesse. Et il y a des émotions qui relèvent plus donc, du combat, l'espoir, le désespoir, l'audace, la crainte, la colère. On va pas forcément prendre le temps de les détailler. La première chose pour apprendre à gérer ses émotions, c'est d'en connaître les origines. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, en fait, c'est tout simple. Pour reprendre, je vais rester sur cet exemple du stress. Lorsqu'on est stressé, eh bien, c'est qu'il y a une origine au stress. Pour prendre un exemple, ça fait partie des formations que je donne, c'est sur la communication, sur l'acte de communication. Communiquer en public. Avez-vous déjà parlé devant 5, 10, 15, 20, 100, 200 personnes ? Eh bien, si vous parlez devant 40 personnes, vous allez peut-être être stressé. Mais en fait, ce sera pas suffisamment clair. Il faudra être capable d'identifier ce sur quoi porte spécifiquement le stress. Est-ce qu'on a peur d'être jugé sur notre origine raciale, sur notre origine de formation? La première fois que je suis allé à Paul Sabatier, fac de sciences, j'avais peur d'être jugé sur mon origine philosophique. Qu'est-ce qu'un philosophe vient nous embêter alors qu'on est en cours depuis 7h45 et qu'il est 18h? Et ça, c'est la première chose. Et l'origine fondamentale, c'est la sensation. C'est l'origine première des émotions, ça va être ce qui est ressenti. Ça va être quelqu'un qui va vous taper sur l'épaule, ou alors ça va être au contraire ce que vous allez vous représenter. Vous imaginez les conséquences d'un retard par rapport au bus qui n'arrive pas, etc. Eh bien, ça va pouvoir être assez anxiogène. D'accord ? Donc, c'est les deux origines principales aux émotions qui sont la sensibilité, donc les cinq sens, et la mémoire ou l'imagination.
Alors, on avance, je vois le temps qui passe, et puis on comprend qu'il faut faire ce travail de, on va dire, d'introspection ou de relecture aussi régulière. En tout cas, c'est ce à quoi vous invitez. La deuxième chose, c'est que ces émotions, il faut apprendre à les équilibrer, à les gérer. Qu'est-ce qu'un regard philosophique peut apporter sur cette notion qu'on peut entendre par ailleurs ?
Alors, pour répondre à la question en un mot, ce que la philosophie peut apporter, c'est sur le fait que nul n'est seul. C'est le fait qu'il y a une complémentarité du point de vue des compétences. C'est ce que dit Platon justement dans La République. Et lorsque nous avons du mal à gérer nos émotions, en gérant l'origine des émotions, la sensibilité et l'imagination, eh bien nous pouvons nous entourer des personnes qui, eux, ont des compétences qui permettront de nous aider à gérer nos émotions. Vous êtes stressé de parler en public parce que vous avez peur de ne pas être assez motivant. Travaillez avec quelqu'un qui lui-même sera motivant. Faites un pitch non pas à une voix, mais à deux voix, par exemple. L'autre manière de faire, c'est, lié à l'introspection dont vous parliez, eh bien, une fois qu'on a identifié ce qui était l'origine du stress, acquérir les compétences dont nous avons besoin pour modérer ce stress. Si la peur est d'être interrompu, par exemple, lorsque l'on parle dans une classe ou dans un amphithéâtre ou avec 200 investisseurs devant nous, eh bien, pourquoi pas faire du théâtre d'improvisation ? On apprendra à être interrompu sans aucun problème.
Alors, l'autre manière, c'est aussi de s'entourer de personnes, non seulement qui vous aident à progresser en termes de compétences ou à compléter ce que vous êtes, mais aussi qui vous aident à trouver cet équilibre émotionnel.
C'est ça, c'est ce que j'appelle les personnes d'or. C'est les personnes qui sont dans notre cercle proche et qui nous connaissent suffisamment pour pouvoir nous aider à endurer les crises que l'on ressent. À titre personnel, c'est mon épouse, par exemple, qui est une de ces personnes d'or. Là, c'est vraiment
d'or,
très
c'est
important.
D'or, hein.
Oui, c'est voilà. Effectivement, D'OR, tout à fait.
Donc, premier point, donc, apprendre à lire ses émotions, à en connaître les origines. Deuxièmement, donc, apprendre à les équilibrer. Et puis, vous retombez à nouveau sur les vertus, en disant que l'acquisition des vertus, alors ça peut paraître un peu, comment dire, un peu professoral ou injonctif comme ça, est une bonne manière d'apprendre à gérer ses émotions. Alors, mettez-vous dans la place, dans la tête d'un cadre ou d'un leader ou d'une mère de famille. Qu'est-ce que ça veut dire et comment rendre ça concret ?
Eh bien, c'est assez simple. Je prends l'exemple d'un repas. Pour manger, il faut à la fois être capable de se retenir et parfois faire preuve de courage. Quand on n'a pas faim du tout, il faut se forcer à manger un minimum pour avoir des forces. C'est ce que toute maman pourra dire à son enfant. Inversement, lorsqu'il y a un excellent Paris-Brest en dessert, peut-être que la prudence, c'est de se retenir, de prendre une deuxième part. C'est un exemple tout bête, mais finalement, on se rend compte que dans la prise de décision, on est toujours entre ces deux extrêmes. Se retenir pour trouver le moment opportun, ou au contraire, se forcer pour pouvoir faire ce qu'il faut faire, par exemple, répondre à des mails, etc. Et finalement, ces deux actions,
donc là,
se retenir.
Là, c'est courage et prudence, en l'occurrence.
C'est prudence que d'agir avec courage et d'agir avec tempérance, du coup. Parce que la tempérance et le courage sont aussi des moyens que la prudence va utiliser pour atteindre sa fin.
Eh ben merci beaucoup Médéric Sausset, et bravo, on a envie de dire, on imagine que voilà, vous allez avoir du succès parce qu'il y a du travail. Parlons, oui, vous voulez rajouter quelque chose?
Un simple mot, c'est pour les auditeurs, c'est un conseil que je donne souvent pour avancer sur la question du leadership, c'est d'essayer de discerner qui sont vos leaders, qui sont les personnes que vous reconnaîtriez comme vos leaders, et d'être capable d'identifier pourquoi, sous quel rapport. Son rapport professionnel, personnel, etc. À mon avis, c'est une bonne manière d'avancer sur la question du leadership que d'essayer de discerner dans notre entourage, proche ou lointain, les personnes qui peuvent vraiment pour nous être des personnes à imiter, desquelles nous pouvons apprendre à nous inspirer.
Merci beaucoup et longue vie donc au coach que vous êtes en train de devenir. Merci beaucoup pour cette première émission Coaching et Vie d'entreprise. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.